Bonsoir Christelle Robière.
Bonsoir Alex, merci et à demain. Pour nous c'est parti, je déclare ouvert le 18-20, soyez les bienvenus sur la planète bleue et aussi jaune. Le 18-20, c'est d'abord le premier grand journal de la soirée. Et ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 3 mars avec le journal de Fabien Fourel. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, c'est d'abord un souffle.
Un vent de liberté emporte le masque. Il ne sera plus obligatoire à compter du 14 mars à l'intérieur pour presque tout le monde. Le même jour, le pass vaccinal sera suspendu. De la réjouissance d'un côté, des craintes de l'autre. Le pire est à venir, dit Emmanuel Macron ce soir au sujet de l'Ukraine. Le président français s'est entretenu avec Vladimir Poutine, qui s'exprime à son tour en ce moment. Pendant que la Roumanie tente d'accueillir les enfants ukrainiens, reportage à suivre. Que s'est-il réellement passé à la prison d'Arles? L'agression d'Ivan Colonna est-elle un acte terroriste? Et puis la découverte d'une grotte en Charente, âgée, tenez-vous bien, de 25 siècles tout de même.
À 18h15, un jour dans le monde, une semaine après le début de la guerre en Ukraine, un document. Nous avons pu parler à l'un des hommes les plus proches du président ukrainien Zelensky, son ministre des Affaires étrangères, Dmitry Kouleba. Il s'exprime pour la première fois et c'est sur France Inter. Nous avons déjà gagné, mais il faut maintenant atteindre la paix, dit-il. Et nous rejoindrons l'un de nos envoyés spéciaux, Eric Biegala, qui a quitté Kiev et qui vient d'arriver en Moldavie. Il nous racontera la vie de ceux qui sont restés là-bas et nous dira comment il fait son travail de journaliste en période de guerre. À 19h20, le téléphone sonne sur le front. Les fronts, où en est-on militairement? Le scénario établi par Vladimir Poutine ne s'est pas déroulé comme prévu, mais la Russie pilonne le pays. Où en est-on aussi sur le front géopolitique, humanitaire? Et bien sûr, toutes vos questions que vous vous posez sur ce conflit. 01 45 24 7000, le standard vient d'ouvrir.
France Inter.
La pandémie de Covid, on respire ce soir.
Eh oui, au propre comme au figuré, les masques vont tomber, le pass s'effacer. Le gouvernement a choisi la date du 14 mars pour déconfiner nos visages et ne plus imposer la présentation du fameux QR code devenu indispensable à nos sorties, avec toutefois quelques exceptions. Précision signée Solène Lehen.
Moins de 2 mois après sa mise en place, le pass vaccinal sera suspendu le 14 mars et on pourra enlever le masque dans presque tous les lieux, en classe, à l'école, dans les collèges, dans les lycées, les universités, dans les entreprises, les administrations, les commerces. Exception, le masque restera obligatoire dans les transports en commun du fait de la promiscuité et dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements qui reçoivent des publics en situation de handicap, en clair, les lieux où se trouvent des personnes fragiles à risque. D'ailleurs, le pass sanitaire continuera d'y être exigé, c'est-à-dire la preuve soit d'un vaccin, soit d'un test négatif. Pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, il est temps de lever les contraintes car ça va mieux sur le plan épidémique.
Chacun aura compris, enfin j'imagine, vous n'avez pas posé la question, mais qu'il n'y a rien de politique dans cette décision. On est dans une décision qui est purement sanitaire. Nous sommes sur une diminution d'environ 400 à 500 patients en réa par semaine. La baisse s'accentue, elle s'amplifie d'ici à 15 jours, c'est-à-dire quand ça aura un peu plus baissé encore, rien ne justifiera alors d'imposer aux Français encore de porter ce masque ou de présenter un pass vaccinal.
À partir de la mi-mars, le ministre de la Santé estime qu'on pourra réfléchir à lever les toutes dernières barrières, comme par exemple le masque dans les transports en commun.
Et réaction mitigée ce soir des scientifiques. D'un côté, les plus confiants, il faut alléger les mesures, dit l'infectiologue Benjamin Rossi, pour qui on est passé dans une phase endémique désormais du virus. En face, le docteur Rochois, cofondateur du collectif de médecins Stop Postillon, dénonce du populisme électoral pour faire plaisir aux gens. Cette annonce intervient en tout cas le jour où Emmanuel Macron va officialiser sa candidature à la présidentielle. Le président de la République publiera dans la soirée une lettre adressée aux Français, qui sera également dans vos journaux régionaux demain matin. On y reviendra dans le journal de 19h d'Hélène Philly sur France Inter.
L'autre grand dossier ce soir, évidemment, c'est toujours la guerre en Ukraine. Ils ont promis de s'écouter, mais vont-ils s'entendre?
Les pourparlers de paix ont repris entre les représentants ukrainiens et russes, mais il ne faut pas s'attendre, hélas, à la fin de la guerre. Ce sera au maximum un cessez-le-feu temporaire. Les deux parties semblent tellement irréconciliables ce soir. D'un côté, les Russes qui exigent une reddition. De l'autre, les Ukrainiens qui souhaitent un retrait des troupes russes sans condition. Et au milieu, Vladimir Poutine qui semble plus que jamais belliqueux et qui a discuté, disons-le ainsi, aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Bonsoir Marie-Pierre Vérot.
Bonsoir.
13e entretien déjà depuis la mi-décembre entre les deux chefs d'État. Et ce message inquiétant, le président français estime estime ce soir que le pire est à venir.
Oui, l'Élysée ne cache pas son pessimisme. Le rapport de force est démesuré. Vladimir Poutine, très déterminé. Les opérations, a-t-il dit à Emmanuel Macron, se déroulent conformément à son plan et il ira jusqu'au bout, le contrôle de toute l'Ukraine. Une Ukraine qu'il veut dénazifier, un terme utilisé à de nombreuses reprises selon l'Élysée. Une Ukraine qu'il veut démilitariser et dont il exige la neutralité, faute de quoi, menace Poutine, la situation va s'aggraver. Des exigences bien sûr inacceptables pour Kiev comme pour la communauté internationale. Emmanuel Macron a lui invité son interlocuteur à ne pas se mentir. « Tu cherches des prétextes », lui a-t-il dit selon son entourage. « Tu commets une erreur grave sur le régime ukrainien, ton pays va le payer cher ». Mais le président russe apparaît enfermé dans un discours qui revisite l'histoire. Il accuse l'Occident de tous les maux et les Ukrainiens de crimes de guerre. Il reste encore du temps pour négocier, veut espérer Paris, mais l'heure est aussi à renforcer les sanctions. Nous ne pouvons laisser Poutine croire qu'il aura l'Ukraine à moindre coût. Cela n'est pas une option, insiste l'Élysée.
Vladimir Poutine, qui est aussi porteur de la Légion d'honneur depuis 2006, 21 députés français en appellent ce soir Emmanuel Macron pour déchoir le russe de cette haute dignité de la République. Sur le front maintenant, nous reconstruirons chaque immeuble, chaque rue, chaque ville, promet le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans une nouvelle vidéo, il assure que les lignes de défense de son pays tiennent face à l'offensive russe et que ses forces les contraignent à changer de stratégie, en attestent selon lui les bombardements de civils. Des civils touchés et notamment des enfants, deux sont morts à Kharkiv ces dernières heures, les familles fuient et une fois dans un autre pays, il faut trouver une école pour des enfants suffisamment déboussolés. Le reportage à la frontière roumaine de l'envoyé spécial d'Inter, Mathilde Dehumi.
Première étape, recenser les élèves. Ils sont dispersés dans les centres d'hébergement de la région. La directrice du groupe scolaire national de Suchava, 1600 élèves, veut les accueillir pour quelques jours ou plus longtemps. Anka Maria Tranchu.
Nous essayons dans quelques jours de faire en sorte de les amener à notre école avec leurs parents, car il est très difficile de les séparer de la famille. Nous espérons les amener ici, dans cette espace plus accueillant.
Sur son bureau, une liste.
Je m'appelle Jacob Cezara.
Cette professeure de roumain recense les élèves qui prennent déjà leurs cours ici en langue roumaine.
8 de nos élèves, ceux du niveau avancé, participeront à un programme de soutien aux enfants ukrainiens qui transitent par notre pays ou bien demandent l'asile à Suchava.
Il faut tout réorganiser en urgence, mais l'école est aussi importante que le reste pour le gouverneur de la province, Georgi Flutur.
Ce ne sera pas une école normale, plutôt un accommodement avec cette nouvelle réalité. Qu'ils puissent raconter le traumatisme de la guerre et en même temps qu'on les rassure sur le fait qu'ils sont dans un endroit sûr.
Ils sont 35 professeurs en langue ukrainienne dans la région. On fera tout pour aider les réfugiés, disent-ils, car l'éducation est un droit fondamental.
Et face au front russe militaire, l'Europe fait front commun humanitaire en matière d'accueil des réfugiés. Les 27 se sont mis d'accord aujourd'hui pour accorder une protection temporaire dans l'Union à ceux qui fuient le conflit. C'est la première fois qu'un tel texte sur l'accueil de réfugiés est adopté.
La France dans un casse-tête diplomatique autour de ses légionnaires de nationalité ukrainienne.
14 d'entre eux arrêtés hier matin, on vous le disait à Paris, soupçonnés d'avoir voulu se rendre dans leur pays d'origine pour combattre la Russie, ce qui brouillerait évidemment les messages de paix de Paris. Bonsoir Ajram Mohamed.
Bonsoir.
Ils sont donc auditionnés depuis mardi soir.
Oui, ils sont entendus au fort de Nogent-sur-Marne, près de Paris. C'est le lieu de recrutement de la Légion étrangère. Et tout l'enjeu de ces auditions, c'est de déterminer leur motivation. Sur ces 14 légionnaires, 9 étaient en permission. Ils pouvaient donc quitter le territoire français. En revanche, les 5 autres étaient en absence irrégulière. Ça veut dire qu'ils étaient censés être dans leur régiment à ce moment-là. Précision importante tout de même, aucun n'avait son arme de combat sur lui. D'ailleurs, ils répètent tous avoir voulu rejoindre la Pologne seulement pour aller chercher leur famille.
Et c'est possible, ils ont le droit, ces légionnaires, de partir comme ça pour aller chercher des proches?
Oui, le général Alain Lardet, commandant de la Légion, l'a annoncé officiellement dans une vidéo adressée à ses hommes mardi soir. Pour ceux qui le souhaitent, des autorisations seront délivrées afin qu'ils puissent rejoindre leurs proches dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Les militaires arrêtés cette semaine, d'ailleurs, ne devraient pas être lourdement sanctionnés, contrairement à ces 25 légionnaires ukrainiens qui, eux, ont disparu des radars depuis plus de 30 jours. Officiellement, ça y est, ils sont considérés comme des déserteurs. mineurs. Et l'armée est très claire sur leur cas, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, s'ils sont en Ukraine par exemple et blessent ou tuent un soldat russe, ce ne sera pas au nom de la France.
Merci Ajra Mohammad. Et deux infos encore sur ce conflit. Sachez que la Géorgie et la Moldavie ont officiellement déposé aujourd'hui leur candidature pour intégrer l'Union européenne dans le sillage de celle de l'Ukraine. Et puis des files d'attente dans les magasins IKEA, des Russes qui profitent une dernière journée du géant de l'ameublement. L'entreprise suédoise a annoncé aujourd'hui la fermeture de tous ses magasins en Russie dès demain.
France Inter, il est 18h10, au lendemain de l'agression d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles. On n'en sait plus sur le profil du suspect.
C'est un homme de 36 ans qui aurait frappé et étranglé Ivan Colonna, lui-même condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
En direct d'Ajaccio pour Inter, le détenu était radicalisé. C'est pourquoi le parquet antiterroriste se saisit du dossier pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste.
Oui, en garde à vue, l'agresseur présumé d'Ivan Colonna explique être passé à l'acte parce que le militant corse a blasphémé en proférant des insultes envers Dieu, indique une source proche du dossier. Les enquêteurs ont saisi les images vidéo de l'agression. Selon les informations de nos confrères de France Bleu Provence, la séquence dure 4 minutes. On y voit Ivan Colonna en pleine séance de sport en train de faire des pompes. Quand l'autre détenu surgit, il se jette sur lui, le frappe très violemment à coups de pied, le retourne sur le dos et lui donne un coup dans la trachée. Il tente ensuite de l'étouffer, puis quitte les lieux pour prévenir les gardiens ou surveillants. Il explique simplement qu'Ivan Colonna a fait un malaise. C'est là seulement que les agents interviennent pour pratiquer un massage cardiaque et réanimer le militant corse.
Et Ivan Colonna est toujours ce soir dans le coma, hospitalisé à Marseille. Et puis Mathilde, les services de renseignement surveillent aussi d'éventuelles tensions en Corse ?
Oui, 150 forces de l'ordre sont envoyées sur l'île, une compagnie de CRS et un escadron de gendarmes mobiles. Des rassemblements ont eu lieu hier soir devant les préfectures et sous-préfectures d'Ajaccio, de Bastia, de Corte. L'université de Corte a été bloquée aujourd'hui par les syndicats étudiants en soutien aux détenus corses. Une assemblée générale a réuni cet après-midi plusieurs responsables nationalistes corses. Ils appellent à de nouveaux rassemblements ce week-end et notamment dimanche à Corte.
Mathilde Vincent avec Julien Girard pour les moyens techniques. En bref, un homme admis en hôpital psychiatrique au Mans. Il avait agressé hier avec un bâton et un couteau plusieurs personnes sur un campus. Une enquête pour tentative de meurtre et violence aggravée est ouverte, mais son état a été jugé incompatible avec une garde à vue. Quand le bio ne récolte plus autant de succès, pour la première fois de son histoire, la filière enregistre un tassement de la demande. Des œufs, du lait restent par exemple invendus. La filière, via sa fédération, va lancer un plan au mois de mai pour près d'1 million d'euros, une campagne de promotion alors que la France est le premier pays européen en production bio avec 13% de fermes engagées. Enfin, c'est une grotte d'un intérêt exceptionnel qui a été découverte en Charente. Une grotte datant de 25 siècles située à La Rochefoucauld en Angoumois, au nord-est d'Angoulême. Il s'agit d'un lieu de sépulture de l'âge du bronze. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Découvert donc lors d'un chantier d'installation de lampadaires.
Oui, c'est en effet en changeant l'éclairage public que des ouvriers ont trouvé que le lampadaire s'enfonçait bizarrement. Le club de spéologues local a été contacté, a déblayé des mètres cubes de terre avant de tomber sur un réseau de galeries d'un kilomètre de long. Stalactites, stalagmites, salles en contrebas, un joyau inviolé depuis des millénaires, raconte le président de l'association Michael Courtois.
Le cheminement principal d'accès se fait par un boyau, donc il y a des positions quatre pattes, à plat ventre, tout ça, qui permettent après de déboucher sur des volumes plus vastes. En arrivant sur le balcon, la première salle, on a une hauteur de plafond d'environ 10 mètres. Sur une galerie notamment, il y a une partie qu'on a appelée la galerie des petits pas, parce que c'est au sol, l'argile est jonchée de plusieurs dizaines d'empreintes de nos ancêtres.
Des bols, des vases, des assiettes en céramique, mais aussi des restes animaux et humains. 10 personnes sont enterrées là, d'après les premières observations. L'occupation pendant 1300 ans rend la grotte exceptionnelle, selon Isabelle Kerouanton, spécialiste de l'âge de bronze à l'INRAP.
La grotte a une vocation funéraire, puisqu'on a des sépultures réparties un petit peu partout. On se trouve globalement entre la fin du bronze ancien et le début du bronze moyen, vers 1800, 1500 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pour la période la plus ancienne, visible. Elle est exceptionnelle parce qu'elle a été volontairement condamnée vers 900 avant Jésus-Christ et absolument personne n'a pénétré depuis.
Et à ce titre, le potentiel scientifique est énorme. Les traces inchangées sur les parois, au sol, les objets vont permettre de décrypter dans les détails les gestes pratiqués lors des rites funéraires de l'époque.
Merci Sophie Becherel. 25 siècles d'histoire. En voilà un témoin de l'évolution du monde, Christelle.
Quelle découverte. Merci Fabien. Vous revenez rapidement dans Sous les radars. Vous nous parlerez notamment du Sri Lanka au au bord de la faillite, ou encore d'une fleur unique au monde menacée par l'installation d'éoliennes en Espagne. Ce soir, la guerre, une semaine après son déclenchement, et ce document France Inter, une interview du ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Vladimir Poutine s'est trompé, dit-il. Nous avons déjà gagné, mais il faut préserver notre pays et atteindre la paix. Et puis en deuxième heure, nous ferons le point sur l'avancée des troupes russes, leur stratégie à géométrie variable. Il est possible que le pire soit devant nous, disait ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, alors que la grande bataille de Kiev n'a pas commencé. Où en est-on aussi en géopolitique? Les pourparlers peuvent-ils aboutir? Et toutes les questions que vous vous posez, bien sûr, sur ce conflit. 01 45 24 7000. Mais d'abord, des nouvelles du ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Pluie et grisaille sur l'ouest demain.
Oui, la perturbation qui donne des pluies en ce moment entre la Bretagne et l'Aquitaine va s'enfoncer un peu plus sur les régions de l'ouest. Demain, elle donnera des pluies entre la Normandie, le Poitou et le sud-ouest. Les pluies seront d'ailleurs plus régulières le long des Pyrénées avec de la neige à partir de 1000 mètres d'altitude, alors qu'elles deviendront plus espacées progressivement sur le reste de la zone. Des éclaircies se dessineront même sur la Bretagne, se propageant jusqu'aux plages de l'Atlantique l'après-midi. Les régions de l'est et le pourtour méditerranéen seront nettement plus ensoleillées. Le soleil va même gagner du terrain l'après-midi pour s'étendre vers les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Bourgogne, alors que la matinée sera plutôt mitigée. En revanche, près de la Côte d'Azur et en Corse, la journée sera encore bien nuageuse, avec des développements d'averses qui apporteront de la neige au-dessus de 1300 mètres.
Et des températures en baisse?
Oui, minimales comme maximales vont perdre quelques degrés. Il faut donc s'attendre encore à des gelées sur le quart nord-est cette nuit. Moins 2 degrés à Reims et Nancy, ou encore moins 3 degrés du côté de Mulhouse. L'après-midi, il fera 9 à 15 degrés en général, avec 10 degrés pour Brest, Le Havre, Metz et Strasbourg. 12 degrés à Lille, Nantes, Bordeaux et Bastia. 14 degrés pour Paris, Lyon et Clermont-Ferrand. On trouvera plus de douceur sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 18 degrés à Marseille et Montpellier. À noter aussi que le Mistral et la Tramontane vont se lever.
Merci Sébastien.